RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour avec la 9e étape du Tour de France aujourd'hui qui vient donc de débuter. C'est un contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec. Dernière étape bretonne avant que toute la caravane du Tour soit mise soit dans l'avion pour les coureurs et pour la direction de course, soit par la route avec un long transfert à direction de Pau demain. Journée de repos bien méritée pour les coureurs après une première semaine de Tour de France bien agitée. On y reviendra évidemment tout au long de l'après-midi. Et on va suivre également la finale de Wimbledon qui va débuter dans quelques instants. Novak Djokovic et Roger Federer qui sont pour l'instant à l'échauffement sur le Center Court de Wimbledon. Je vous le disais, c'est donc la 9e étape du Tour de France qui vient de s'élancer. Frédéric Adam qui vient de s'élancer avec la première équipe, donc la formation Orica Green Edge, qui était considérée avant le début de ce Tour de France comme la grandissime ou l'une des grandes favorites de ce contre-la-montre par équipe. Mais malheureusement, je le disais, il y a eu beaucoup de chose depuis le départ de ce tour et ça a été une véritable hécatombe pour l'équipe australienne qui ne s'aligne au départ de cette étape qu'à 6 coureurs au lieu de 9. Fait une grosse différence.
Les équipes des principaux favoris seront à 9 évidemment. Homogénéité et force collective exigées sur ce parcours très vallonné de 28 km avec un public impressionnant. C'est dimanche, c'est la Bretagne et c'est le Tour de France. Tous les ingrédients sont réunis pour un succès populaire assez extraordinaire. Tout à l'heure, on avait du mal à progresser dans les 10 derniers kilomètres du parcours en voiture. On en était encore à l'installation. Cette fois, on en est au cœur de l'action avec deux équipes qui se sont élancées. Orica Green Edge, donc, qui avait remporté le contre-la-montre par équipe il y a 2 mois en ouverture du Tour d'Italie, le Giro. C'est Simon Gerrans qui avait porté le premier maillot rose du Tour d'Italie. Et bien cette fois, ça risque d'être beaucoup beaucoup plus compliqué pour les Australiens d'Orica. Il n'y a plus Gerrans, il n'y a plus Albassini, il n'y a pas Daryl Impey qui avait été le premier Africain à porter le maillot jaune, lui le Sud-Africain. On se souvient que c'était après le contre-la-montre par équipe de Nice au retour de Corse il y a 2 ans. 6 coureurs seulement, ça ne sera pas assez pour aller jouer la gagne aujourd'hui à Plumelec en haut de la côte de Cadoudal. Ce n'est pas franchement un final pour un contre-la-montre par équipe puisqu'on vous le rappelle, le temps des équipes ou le temps des 5 premiers est pris sur le 5e homme ici sur la ligne d'arrivée. Pour ceux qui terminent 6, 7, 8 ou 9e de leur équipe, c'est le temps réel qui s'applique.
Donc en fait, c'est le 5e homme qui décide de tout aujourd'hui. Hein. S'il y en a un qui est un peu moins bien...
Il faut arriver groupé en haut de la côte. Côte fait près d'un kilomètre 700 à 7% de déclivité. Il va falloir garder du jus et garder les hommes mobilisés. C'est un savant mélange, une alchimie digne du druide qui est requise aujourd'hui.
Alors le druide, je ne sais pas s'il est de retour parmi nous. Non, je crois qu'il est allé faire la sieste. Ben, il est en Bretagne. Hein. Donc c'est où la sieste, ou alors il est allé dire bonjour à tous ses copains. Il connaît du monde ici dans la côte de Cadoudal. Il est venu à vélo d'ailleurs, mais cette feignasse, il a pas fait la côte de Cadoudal, il est arrivé par derrière. On en parlera dans quelques instants avec lui. Georges Quirino, lui, est sur la ligne de départ. On l'a entendu tout à l'heure avec des invités, notamment le manager de la formation Sky ou Martinelli, celui de la formation Astana. Georges, donc les équipes qui arrivent petit à petit. La deuxième, elle s'est lancée. On part de combien en combien, de combien de minutes en combien de minutes?
Toutes les 5 minutes. Je suis avec un invité, Christophe. Je suis au passage de Zara Mondial. Je vais mettre un petit peu plus bas parce que c'est un peu fort apparemment pour Vincent Lavenue, le manager de la formation AG2R qui vous écoute. Salut Vincent.
Oui, bonjour.
Bon, bah, on vient de voir Alexis Buermos qui vient d'arriver notamment là, qui vient certainement de réaliser sa nouvelle popularité. Bon, déjà, c'était comment hier soir après la victoire d'Alexis, le retour à l'hôtel?
Bah, c'était un moment de joie partagée, de bonheur, de tranquillité, voilà. Et puis on a évidemment partagé les coupes de champagne. Et c'est des moments extraordinaires. On travaille toute l'année pour ça, pour vivre ces quelques petits instants qui sont si rares dans une saison. Voilà, donc c'est des moments à revivre évidemment.
Et ça va presque. Ouais, sonné hier notamment, je me rappelle Julien Jourdi, le directeur sportif, qui est arrivé. On a l'habitude de le voir euphorique et là il était là. Waouh, c'est incroyable ce qui se passe. C'est un peu ça aussi le sentiment qu'il y a eu hier.
Ce qui est incroyable, c'est le niveau de performance qu'a atteint Alexis. Il a fait un truc qui est incroyable. Je l'ai revisionné le soir, parce que maintenant on a la possibilité de revoir ça avec les images enregistrées. Il a fait un truc extraordinaire que peu de coureurs sont capables de faire. Donc il est passé du statut de bon coureur à stature de champion en une étape. Et je crois que tous les coureurs du peloton vont le saluer et reconnaître ce niveau de performance vraiment qui est quelque chose d'exceptionnel.
Alors Vincent, hier on se posait la question dans nos débats avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon de savoir si Alexis Villermoz n'allait pas changer de statut au sein de votre équipe. Il était au départ de ce tour pour accompagner vos leaders en montagne. Est-ce que là ça va un petit peu changer pour lui? Est-ce que vous comptez sur lui aussi dans les grandes ascensions? Alors c'est pas le même exercice évidemment, une côte de 2 km ou les grands cols des Alpes et des Pyrénées. Est-ce qu'il a les mêmes aptitudes, selon vous, pour briller aussi dans les Pyrénées et les Alpes?
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un garçon qui franchit les escaliers 4 à 4, hein, puisqu'il n'en est qu'à sa troisième année de coureur cycliste professionnel. Il a terminé l'année dernière, donc pour sa deuxième année pro, 11e du Giro en faisant le boulot, hein, en faisant le boulot pour Zovivo. Donc, il a montré déjà des aptitudes importantes pour ce type d'exercice. C'est pour ça qu'on l'a rapidement, on l'a qualifié pour le Tour. Et là, cette année, il a encore franchi des paliers très, très importants. Donc là, il se retrouve aujourd'hui en joker dans l'équipe. Hein, on a deux leaders qui sont définis et lui qui est là, le troisième larron, qui est là pour accompagner les leaders le plus long possible. Et puis on verra au fur et à mesure des jours ce qui se passe. Donc si à un moment donné un leader pour une raison ou une autre faillit, pourquoi pas, il pourra se situer comme deuxième leader. Mais pour le moment on n'en est pas là, on va rester sur nos plans initiaux et puis essayer de s'appliquer à obtenir les objectifs qu'on avait définis au départ.
Vincent, hier soir après l'arrivée, on a entendu un Jean-Christophe Perrault qui était euphorique par la victoire de son équipier. Romain Bardet l'était un peu moins, mais c'était en raison de sa contre-performance. Il a perdu quelques secondes hier, 21 secondes. Il est dans quel état, Romain, avant d'attaquer les grands rendez-vous des montagnes?
Oui, alors Romain n'était pas battu, il était un petit peu déçu de sa propre performance, il était très heureux de la victoire d'Alexis, de cette euphorie qui était au sein de l'équipe, mais lui-même, c'est vrai qu'il était un petit peu déçu de sa propre performance. Nous, on a relativisé tout ça, on sait que c'est pas forcément des arrivées pour lui, hein. C'est qu'un garçon qui est un grimpeur de haute montagne et pas forcément un puncher sur des arrivées raides. Donc nous on le rassure, mais il n'y a pas d'inquiétude pour la suite. On sait qu'il marche, il marche très très fort, il a très bien travaillé et il sera présent en haute montagne.
On sait que le contre-la-montre c'est pas forcément son fort à Romain. Juste pour que le grand public comprenne, par exemple il y a un Jean-Christophe Perrault qui est plutôt bon en contre-la-montre qui est avec lui là. Comment on s'étalonne sur un chrono par équipe? Comment ça marche quand on a des bons et des moins bons sur un chrono par équipe?
Alors oui, la force d'un chrono par équipe c'est justement de se maintenir à haut niveau de manière linéaire et de gommer les différences qu'il y a entre les coureurs. C'est la grosse difficulté, elle est là. Donc on sait très bien que les coureurs forts doivent prendre des relais longs en maintenant la vitesse, et ceux qui sont un peu moins forts de prendre des relais plus courts sans faire tomber la vitesse. La difficulté, elle est vraiment là. La gestion, l'homogénéité du groupe se fait là, et c'est ce qui fait qu'on perd, on perd pas. Il y a quelques équipes qui dominent parce qu'ils ont des champions du monde de poursuite et autres, donc ce sont des gros rouleurs. Nous, on a plutôt une équipe de grimpeurs. On a mis quelques rouleurs pour essayer de faire avancer l'équipe en contre-la-montre. Après, c'est une question de gestion et d'homogénéité. Mais Romain, en ce qui le concerne, dans les chronos par équipe, est plutôt bien. Il est mieux dans les contre-la-montre par équipe que les contre-la-montre individuelles.
Merci Vincent d'avoir été avec nous. Bonne suite de tour. C'est vrai que la dynamique, la belle dynamique est enclenchée au sein de la formation H2R. On espère vous voir briller, voir vos coureurs briller dans les Pyrénées. On en a besoin. On compte sur
merci.
Vous.
Hein. Au revoir,
merci Vincent.
Vincent
Lavenue, donc le manager de la formation H2R. Cyril Guimard, on l'a retrouvé. Hein, et il a beaucoup de monde à saluer. Ça va, Cyril?
Oui, ça va. Non, j'étais en haut, mais je travaillais.
Ah bon.
Et je n'ai pas vu l'heure passer parce que tu as dit tout à l'heure, on revient dans 20 minutes.
Voilà.
Et comme je travaillais d'arrache-pied, intellectuellement parlant, sûr.
Ah oui, c'est voilà. Difficile de faire deux trucs en même temps.
Ben oui, parce que vous me donnez des missions, mon cher Christophe.
Oui, la musette, le titre du jour. Ah oui, ça bosse, hein. Ça bosse cette année, le druide.
Et là, je suis sur l'étape contre la montre.
Ouais.
Ce qu'a pu dire, d'ailleurs, Vincent ne m'a point surpris du tout. Mais nous irons plus loin tout à l'heure dans le briefing.
Exactement.
Donc il faut quand même bien que je le prépare.
Ah ben ça se prépare, ça.
Je me suis échauffé ce matin en faisant guerre Plumelec et je me suis dit, là dans cette bosse-là, je roule comment? Et là au sommet, je visse comment? Alors En fait, c'est complètement faux parce que la bosse, je savais comment la monter et en haut, je pouvais pas visser.
Très bien. Cyril, on va revenir vers toi. La recette du druide, évidemment, le titre de l'épisode du jour. N'hésitez pas sur le hashtag RMC Live. Venez nous faire des propositions. Fred, à l'instant, le départ de la formation FDJ avec son leader, Thibaut Pinot. Là aussi, il faudrait éviter de prendre un nouvel éclat parce que jusqu'à présent, ça va pas très fort. Faut bien le dire pour Thibaut, qui disait hier souffrir du genou et d'une bronchite. Bref, les conditions sont pas optimales, il faut bien le dire, pour le leader de l'équipe française.
Oui, la FDJ qui s'élance en ce moment, qui est la quatrième formation à prendre le départ de ce contre-la-montre par équipe à la sortie de Vannes désormais. C'est vrai, Thibaut Pinot est aux alentours de la 30e place du général, relégué à plus de 6 minutes 30 de Christopher Froome. Sans doute va-t-il encore lâcher du temps aujourd'hui. Ce n'est pas lui faire injure, ce n'est pas leur faire injure, puisqu'aujourd'hui ce contre-la-montre est collectif, mais face aux armadas Sky, Astana, Movistar, BMC, on voit mal comment les hommes de Marc Madiot pourraient faire jeu égal aujourd'hui. Le but, c'est de limiter la casse et d'arriver entier en haut de la côte de Cadoudal.
Exactement, il y a beaucoup de monde, une foule considérable, un premier tout droit pour
un tout droit alors qu'on n'est pas encore sorti de la ville. C'est ça, il faut appuyer fort sur les pédales, il faut rester homogène et garder un sens de la trajectoire intact.
Très bien, le quintet qui s'est couru à Chantilly, qui vient de s'achever. Fred Zermati, salut Fred.
Salut Christophe, bonjour à tous. Avec une belle victoire pour le 2, Lady Zina, de la dernière assaillante, qui est venue à bout de l'animatrice, le 6 rue Pomereux, qui doit s'incliner aux abords du poteau. La 3ème place pour le 7, 50 Gold. La 4ème pour le 5, Lacine, que je vous conseille de noter sur vos bordereaux. Et le 12, Dylanel, qui complète la bonne combinaison du quintet. 2, 6, 7, 5 et 12. De petites cotes à l'arrivée avec de petits rapports en perspective, Christophe.
Merci Fred, à tout à l'heure, 17h50 pour le débrief de la journée aux courses. 15h17 sur RMC, c'est donc la 9e étape du Tour de France aujourd'hui. Mais vous le savez, le 9e épisode a été précédé du 8e. C'était hier, entre Rennes et Mur-de-Bretagne, avec le triomphe d'Alexis Villermoz. C'était donc précédemment dans l'Intégral Tour.
RMC, précédemment dans l'Intégral Tour de France.
Notre reporter sur la moto.
Il a une question à vous poser justement concernant Alberto Georges.
Oui, Jacinto, se souvient au départ à Utrecht que des journalistes néerlandais avaient offert un canari jaune porte-bonheur à Alberto Contador.
Oui.
Est-ce qu'il a gardé avec lui le canari pour le Tour de France?
Non, parce que ça pourrait être trop dangereux pour le canari.
Ah, voilà les bonnes nouvelles qui arrivent, puisque Luc vient à peine d'arriver. Oh là là, mais la musette, elle est remplie, monsieur, magnifique. Tu es un seigneur. Voilà à quoi on reconnaît les champions. C'est ceux qui arrivent à remplir leur musette à l'arrivée et qui va donc nous régaler.
Non, mais oui, des petites galettes, tout ça, avec le petit sirop, beurre salé, tout ce qui va bien, avec la petite bière locale. Enfin, voilà.
On va être bien sur les plages au mois d'août, ça va être magnifique.
Chute de Damien Gaudin pour l'équipe AG2R La Mondiale, qui a emmené Merawi Koudous avec lui, l'un des deux Érythréens de l'équipe MTN Kubetka, et Nicolas Hédé, le coureur de la formation Cofidis, deux Français à terre à l'arrière du peloton. Daniel Hauss, l'Italien, machine à rouler, est en train d'entrer dans la commune de Mur-de-Bretagne, mais ce n'est pas dans le village que va être jugé l'arrivée, mais bien à la sortie du village, en haut de cette longue colline de 2 km, colline noire de monde aujourd'hui, en plein dans les champs.
Allez, on va voir la moto RMC qui se trouve juste au pied de la côte et qui va voir le peloton arriver à toute vitesse. Georges.
Exactement, avec les motards de la garde républicaine qui passent là devant nous sous la banderole des deux derniers kilomètres. On commence à agiter les drapeaux du côté des supporters, les motos photographes qui précèdent le peloton, la voiture de Christian Prudhomme, et voilà le peloton qui va tourner à droite dans quelques instants pour la montée à Mur-de-Bretagne.
C'est la victoire pour Villermoz dans un instant.
Alexis Villermoz, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, qui, à la manière de Blel Kadri il y a un an sur les hauteurs de Gérard Armé, vient s'imposer devant Dan Martin. Victoire de Villermoz devant Martin, Valverde et Sagan. Tony Galopin vient prendre une nouvelle place d'honneur.
l'équipe m'a positionné parfaitement au pied du mur de Bretagne. Ensuite, j'ai pris mes responsabilités en attaquant dans le raid. Après, quand Christopher Froome est revenu, j'ai profité pour prendre sa roue, récupérer un peu dans sa roue. Et dès qu'il a baissé le régime, j'ai attaqué. Je savais pas où ça allait aller, honnêtement, j'étais déjà un peu à bout de force. Après, j'ai continué mon effort, j'ai baissé la tête, fermé les yeux et continué à pédaler jusqu'au bout. Je pensais qu'il allait me reprendre et finalement, personne n'est revenu. Et à 50 cm de la ligne, j'ai réalisé que ça allait faire.
RMC Intégral Tour.
Alexis Villermoz, premier vainqueur français d'une étape sur les routes de ce Tour 2015. Alexis Villermoz, le jeune coureur de la formation AG2R, la mondiale qu'on attendra à partir de mardi dans les montagnes aux côtés de ses leaders Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet. Tout à l'heure, on sera avec quelqu'un qui le connaît bien, quelqu'un qui pendant un an a été son mécène, Daniel Germont, qui nous expliquera pourquoi il a parié sur ce coureur. Et il sera avec nous tout à l'heure au téléphone dans l'Intégral Tour. Fred, est-ce qu'on peut faire un premier point sur la course? Combien d'équipes se sont élancées jusqu'à
présent? 5 viennent de s'élancer à l'instant, les Lamprey emmenés notamment par Filippo Pozzato, le vétéran italien. 5 équipes sont parties de Vannes et il y a 2 pointages intermédiaires sur le parcours, dont celui placé le premier au kilomètre 10 à l'Esnevé très exactement, et les deux premières équipes à s'être élancées de Vannes tout à l'heure sont passées, et pour l'instant c'est Bretagne Séché Environnement qui passe avec le meilleur temps, devancé à l'instant par les Lamprey Mérida. Aurica est beaucoup plus loin. Aurica, on vous le rappelle, qui va souffrir aujourd'hui avec seulement 6 coureurs rescapés sur les 9 engagés au départ du Trent il y a 8 jours.
Ouais, c'est presque une journée de repos d'ailleurs pour la formation Aurica, qui ne va pas tout donner dans ce contre-la-montre par équipe, alors qu'au début du tour ils ambitionnaient de remporter cette étape. 15h21, vous êtes sur RMC l'Intégral Tour et on se quitte quelques instants et on revient sur les routes entre Vannes et Plumelec. 28 km à parcourir aujourd'hui. Mais à bloc, c'est le contre-la-montre par équipe. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 9e étape de ce Tour de France, donc aujourd'hui le contre-la-montre par équipe, c'est le 2e exercice chronométré depuis le départ de ce Tour de France, après la première étape qui était un contre-la-montre individuel. Cette fois-ci c'est un contre-la-montre par équipe, 28 km, et ensuite je vous le disais tout à l'heure, on range les chronos et on attaque les montagnes. Ce sera à partir de mardi. On va retrouver Georges Quirino peut-être pour la carte postale du jour. Je sais pas si Georges est là, non. Ah bon, alors très bien, donc c'est les paris. C'est les paris et c'est Benoît Boutron qui s'y colle.
Les paris RMC, Tour de France.
Avec Benoît, que je salue à nouveau, puisqu'il était tout à l'heure en Allemagne pour le Grand Prix MotoGP. Alors Benoît, rappel des principales équipes favorites pour ce contre-la-montre par équipe.
Et si vous pensez que le grand favori va s'imposer, il faut jeter sur la cote puisqu'elle ne cesse de baisser pour l'instant. C'est BMC, évidemment, on en parlait, l'équipe américaine qui est championne du monde en titre de la spécialité. 1,76 pour BMC, 4,40 pour le Team Sky, 4,70 pour Movistar et 9 pour Astana. Bon, on va garder notre pari, Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, toi t'avais joué Sky, c'est vrai, toi t'avais joué le Team
Sky. Moi j'ai joué Sky, joué Sky parce que je les trouve quand même très impressionnant depuis le début. Enfin, dans tous les cas, Chris Froome peut-être, c'est, oui, ses coéquipiers le sont un peu moins, mais ils sont dans une, ils sont sur un nuage pour l'instant, euphorique les Sky. Donc sait-on jamais. Mais évidemment, si on regarde en termes de performance pure, BMC paraît quand même au-dessus, Fred, aujourd'hui.
Oui. BMC est parfaitement équipé, pourrait-on dire, pour ce genre d'exercice. Ce sont les champions du monde de la discipline. Ils avaient décroché ce titre l'an passé en septembre à Ponferrada en Espagne. Les BMC qui comptent dans leur rang des coureurs comme Daniel Oss, l'Italien, son compatriote Manuel Quinziato, l'Américain TJ Van Garderen, Rohan Dennis qui avait remporté le contre-la-montre inaugural du Tour à Utrecht. Il y en a d'autres qui vont vite, Michael Schaar, Dani Lovis, les Suisses. Grosse homogénéité en vue, et puis surtout ils ont coché cette étape avant même ce départ du Tour. Ils ont préparé l'exercice, et quand BMC, qui a un budget énorme au même titre que Sky ou que Quickstep, prépare un objectif, en général ils ne sont pas loin, les membres de l'équipe managée par le milliardaire suisse Andy Ries.
Alors, les qu'ont donné les membres de la Dream Team. Je me rappelle plus, Benoin,
en fait, que tu es le seul avec Cyril Guimard à avoir pronostiqué Sky. Tout le monde a donné BMC, sinon. Mais tu sais, Lucho, il est en tête, donc il commence à jouer tactique. Tu vois, il joue le favori, il se couvre avec ça, en fait.
Et il a bien raison. C'est lui le leader. Le leader a toujours raison. Merci, Benoin. À tout à l'heure.
Merci.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On a retrouvé Georges Quirino qui se trouve toujours sur la ligne de départ de cette 9e étape du Tour de France. C'est l'heure de la carte postale.
À la rencontre de vos régions avec ERDF. ERDF au cœur des réseaux électriques de demain.
Alors Georges, qu'y a-t-il de beau à voir aujourd'hui sur la course? C'est court, hein, 28 km seulement entre Vannes et Plumelec. Qu'est-ce qu'il y a de belles choses à voir? Raconte-nous ça.
Je vais d'abord commencer par une carte postale improbable en Bretagne. Tu veux, Christophe, ou pas?
Vas-y.
Une petite carte postale improbable. Est-ce possible de faire une petite canción par la Nairo?
Nairo! 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 Nairo!
Voilà, c'est les supporters colombiens qui sont très nombreux avec les drapeaux au pied du bus Movistar alors que Nairo Quintana vient de sortir. Il y a vraiment des supporters du monde entier. Hein. Christophe, cette année, on a vu les Érythréens qui suivent Teclemagnot et Kudus et les Norvégiens qui suivent notamment Edvald Boasson-Hagen. Et là, c'est les Colombiens qui sont souvent très nombreux. Là, ils sont avec des maillots de l'équipe de Colombie, avec le drapeau également devant le bus de Movistar. Ils étaient euphoriques quand Nairo Quintana est descendu du bus pour les saluer. Je suis pas en Colombie, mais je suis à Vannes. Christophe, 12e fois que la ville accueille une étape du Tour de France. Vannes avec son magnifique château de l'Hermine et ses remparts érigés entre le 13e et le 17e siècle. Là, c'est les rares fortifications qui ont été préservées en Bretagne. On les a vues en arrivant ici, elles sont magnifiques. On est au cœur du golfe du Morbihan, donc c'est un haut lieu du nautisme également ici à Vannes. Les coureurs qui vont passer notamment au kilomètre 6 dans ce qu'on appelle la petite Suisse bretonne, c'est Saint-Nolf, avec ses jolies petites chapelles, dont la chapelle Sainte-Anne qui a été construite en 1493. On regardera ça de près. Et puis, évidemment, on va aller jusqu'à Plumelec, qui accueille le tour pour la 5e fois avec la côte de Canoudal et le magnifique château de Caliac, construit fin 14e siècle, que l'on verra certainement en arrivant sur l'aire d'arrivée. Voilà, on va voir des châteaux, on va voir un petit peu du sport nautique. Et puis on a vu des Colombiens. J'avoue, on s'y attendait pas sur la carte postale en Bretagne.
Des congénères à toi, ça, les Colombiens. Non, le Colombien, c'était ton surnom l'année dernière. Là, désormais, tu t'es transformé en petit guerrier gaulois. Hein, le Colombien a bien changé depuis l'an dernier. Merci, Georges. Vous avez vu comme il est fort en histoire et en géographie. Il a eu 19,5 au bac. Et ça se voit.
Et en espagnol aussi.
Et en espagnol, il est pas mal.
Le bac que j'ai passé cette année, hein, puisque j'ai 18 ans, évidemment.
Évidemment.
Ça s'entend.
Ouais. Cette petite voix. Qui vient à peine de muer, hein, on l'entend bien.
Oui.
Merci Georges, à tout à l'heure. Retour sur les routes bretonnes entre Vannes et Plumelec avec cette étape qui a débuté, les équipes qui s'élancent les unes après les autres. On vous rappelle que la dernière à s'élancer sera la formation BMC qui partira tout à l'heure à 16h45. Patrick est avec nous au 32-16. Il voulait nous parler de sa passion pour le chrono par équipe. Salut Patrick.
Allô.
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Bravo pour tous vos commentaires, c'est très bien.
Merci.
On est aussi bien devant la radio que devant sa télé.
Avec c'est un plaisir en tous les cas de vous avoir. Et puis en plus, vous pouvez vous parler directement à nos champions. Alors Patrick, je crois que tu es un passionné du contre-la-montre par équipe. C'est un exercice que tu apprécies plus particulièrement.
C'est pour moi, je rebondis un petit peu sur le débat que vous avez eu ce matin sur la nécessité de maintenir ou non des contre-la-montre. Pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est l'exercice style par excellence, qui est très télégénique en plus, et ça nécessite un effort constant, comme vous l'avez déjà dit, un effort régulier, et surtout on voit que tous les coureurs se donnent du point zéro jusqu'à l'arrivée, quoi. C'est pas un exercice où on peut se relâcher, où on peut boire un peu du bidon, pédaler un petit peu comme ça, en regardant les paysages autour de soi, non. C'est un exercice complet qui nécessite beaucoup de technique, et justement, c'est quelque chose d'essentiel. Une position sur un vélo, un travail d'équipe au millimètre, se relayer au bon moment, passer quand il faut, se remettre dans la file, c'est très 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 beau à voir, et franchement, non, c'est une évidence pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas prohiber dans le tour, et même je dirais que 29 km, c'est peut-être pas assez long, quoi, genre une petite vingtaine de kilomètres de plus. et que ça aurait été parfait, quoi.
Ouais. Le contre-la-montre par équipe qui revient aux sources sur le Tour de France, puisqu'en 1982 on avait droit au premier contre-la-montre par équipe à la
c'est
suite.
C'est pas la bande à Guimard qui avait gagné ça, non?
Non, non, c'était les tirs à l'aigle.
Ah, les tirs à l'aigle, les Hollandais volants.
Oui,
ah
ouais.
Les tirs deuxième avec Cyril en 91.
Oui, pas en 82, hein, on est bien d'accord. Mais c'était à Plumelec déjà en 82, et là 33 ans plus tard nous y revoici à Plumelec. Il n'y a plus d'équipe tir à l'aigle. Il existe, pour les spécialistes de cyclisme européen, il existe une équipe Raleigh, une équipe de 3e division, une équipe continentale. Elle est basée en Angleterre et elle court essentiellement sur l'île.
Cyril Guimard, notre druide, est-ce que tu appréciais, lorsque tu étais directeur sportif, cet exercice du chrono par équipe?
Oui, tout à fait, quand on gagnait.
Ce qui n'était pas toujours le cas, si, quand même, la bande à Guimard gagnait toujours ce genre de choses.
Je pense qu'on a dû en gagner à peu près un sur deux. Mais c'est un exercice qui est très très difficile déjà pour les coureurs, hein, mais qui pour le directeur sportif est aussi et pour l'encadrement bien sûr toujours très stressant, parce que vous avez toujours la hantise de la chute qui vous envoie entre 1 et 8 coureurs par terre. Et ça arrive malheureusement, parce que les coureurs sont le plus près possible les uns des autres, et si vous avez un coureur qui touche une roue, eh bien tous ceux qui sont derrière bien sûr vont y aller. Vous avez également des virages qui se prennent à haute vitesse, puisque il y a personne qui vous gêne, pas d'adversaire. Il suffit qu'il y a un petit coup de frein, peut-être un peu trop sec, une trajectoire un petit peu ratée par l'un des coureurs, et par voie de conséquence, comme on est en serpentin, eh bien ça fait une vague derrière, et souvent ben vous en perdez un ou deux dans les balustrades. Mmh. Donc c'est toujours très stressant, et puis vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir dans votre équipe deux ou trois coureurs qui sont en panne de cuisse. Ouais. Et là vous perdez un maximum de temps, et là aujourd'hui ça va être très très important, et encore plus que dans d'autres contre la montre par équipe, c'est qu'on finit au sommet. Ouais. d'une vraie belle côte. Ouais. Et qu'il faut garder le cinquième. Ouais. Moi, je me souviens, une année, on a perdu, c'était au Havre, on a perdu le contre-la-montre par équipe pour quelques secondes. On passait le pont de Tancarville. Alors, je sais pas si vous voyez, et le pont de Tancarville, mais en plus, on l'avait très bien passé. Et lorsqu'on arrive sur la boucle finale dans le Havre, on a Maurice Le Guillot qui d'un seul coup, à 3 km de l'arrivée, a une crevaison lente. Il n'est pas question, comme c'est lent, de lui changer la route. On perdrait beaucoup trop de temps. Donc on a été obligé de l'attendre à chaque sortie de virage, parce que comme il était crevé à l'arrière, il était un petit peu en travers partout. Mm-hmm. Et ça nous a coûté la victoire, puisqu'à à l'entrée de la boucle, on était en tête avec une dizaine de secondes.
Ah, très bien.
Ne jamais crever de l'arrière. C'est une règle d'or.
Merci Cyril pour cette petite anecdote. Merci également à Patrick, notre auditeur, donc passionné du contre-la-montre par équipe. On va se régaler. C'est vrai que ça fait de très belles images en tous les cas. 15h37, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette étape. Et puis, on ira voir également Eric Salio. Et puis, on va parler de sécurité routière et des cyclistes qui sont en danger sur la route avec une opération sur la sécurité routière. On en parle dans un instant dans l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
15h40 sur RMC, l'Intégral Tour qui se poursuit évidemment. J'ai des choses à vous faire gagner puisque c'est l'heure du jeu Tour de France RMC aujourd'hui. Vous avez la possibilité de gagner le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, il faut appeler le 3216 touche 6 ou envoyer le mot-clé RMC par SMS au 7-32-16. Quirino, retour sur la route du Tour. Georges Quirino au départ à Vannes avec des choses à nous raconter, évidemment, Georges.
Et oui, pour vous donner une petite image, vous savez, pour un contre-la-montre par équipe, les gens ne le savent pas forcément, mais on s'entraîne aussi par équipe. Je suis devant le bus Cannondale Garmin, où vous allez entendre peut-être le bruit.
C'est
c'est le bruit des roues. C'est le bruit sur le home trainer, effectivement, puisque eh bien tous les coureurs de la formation Garmin s'entraînent ensemble, l'un à côté de l'autre, sur leur home trainer. Donc on met déjà en place la cohésion d'équipe déjà devant le bus. Ils sont tous l'un à côté de l'autre, Dan Martin, Christian Langeveld, pour préparer le chrono.
Merci Georges pour cette petite image sonore. Autre image sonore à l'arrivée cette fois-ci avec Pierre-Yves Leroux qui vient de s'entretenir, non, qui s'entretient avec les coureurs de la formation Bretagne Séchée qui viennent d'en terminer. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe, avec Pierrick Fédrigo qu'on va pouvoir écouter, le chasseur à l'arrivée.
Sur le plan personnel, cette première semaine du Tour de France pour vous, c'est passé comment?
Bah, très difficile, très nerveuse, très stressante. Voilà, on laisse beaucoup d'énergie. Avec ces étapes-là de plaine où il faut toujours être placé, faut éviter les chutes, on a eu un petit peu de pluie, donc les routes glissantes. Voilà, le principal cette semaine c'était de finir la semaine sans casse et sans chute.
Pierre, quels sont les pièges de ce contre-la-montre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu de compliqué à gérer?
Bah, c'est pas un chrono. C'est un beau contre-la-montre par équipe. Je pense que voilà, le parcours lui est pas excessivement dangereux. Après voilà, c'est un circuit de rouleurs. Des équipes avec des gros rouleurs vont faire la différence, c'est sûr.
Beaucoup de monde.
Énormément de monde, et ça c'est la magie du tour, ça.
Merci beaucoup Pierrick. Avec, vous le savez, pour les coureurs maintenant, un grand trajet qui les attend en direction de Pau avec un avion, hein, pour
oui,
être
oui,
plus simple.
Un avion à une heure, ça va mettre, ça va pas être non plus trop compliqué.
Non, non,
hein, c'est pas comme toi qui va devoir faire 800 km.
Exactement,
hein.
En courant.
T'as pas intérêt à t'endormir en route. Hein.
En courant derrière la voiture.
En courant.
Bon, il sera abrité. Hein.
Il sera abrité. Fred,
Cyril nous entend, parce qu'il voulait qu'on chante quelque chose aujourd'hui. Il voulait que tu sois à barre de tout seul.
Il voulait pas que tu chantes tout seul.
Non.
Alors chantez tous les deux, Cyril et Pierre-Yves.
Son, les gars de Locminé qui ont de la maillette, qui ont de la maillette. Son, les gars de Locminé qui ont de la maillette en dessous de leur soulier.
Vous êtes bien. Un duo est né. Pierre-Yves Leroux et notre ami Cyril Guimard. C'est quoi le titre de la chanson?
Ah, les gars de Locminé.
Les gars de Locminé, d'accord.
C'est juste d'accord. À côté de Plumelec.
C'est à côté de Plumelec. Bravo, messieurs. Moi, je dis félicitations tous les jours. Donc, une petite chanson.
Si là, on n'est pas dans le par équipe aujourd'hui.
Ah oui.
Connais rien.
Un duo de choc.
Joli duo.
Très bien. On va s'intéresser à la sécurité des coureurs cyclistes. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, Fred, ainsi que tous les gens qui pratiquent le vélo. Évidemment, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de danger pour les coureurs, même si courir en peloton, c'est pas évident. On l'a vu dans les premières étapes du Tour de France. Mais le principal danger pour les coureurs cyclistes ou pour tous ceux qui pratiquent le vélo, c'est évidemment lorsque la route est ouverte. Fred, c'est pas évident. Il y a des dangers permanents avec beaucoup d'accidents et d'accidents mortels.
Oui, autant le dire que ceux qui sont pas d'accord viennent nous apporter la contestation. Le sport cycliste est celui qui expose le plus ses pratiquants aux dangers, les dangers de la route par elle-même et les dangers de certains comportements automobilistes qui sont totalement inconscients. Et chaque fois qu'on sort le vélo, que ce soit dans n'importe quelle région de France, ne stigmatisons pas l'une ou l'autre. Évidemment, en région parisienne, c'est super dangereux parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais on aura peut-être l'occasion de détailler ça. Vigilance, messieurs les automobilistes, s'il vous plaît, mais on va avoir l'occasion de le rappeler.
Exactement, puisque Catel Botrel est avec nous dans notre studio. Bonjour, madame Botrel. Alors, vous êtes responsable de la sécurité routière sur le Tour de France, enfin plutôt de la région Bretagne. Hein,
exactement.
Très exactement. Et vous montez une opération ici, justement, pour sensibiliser les conducteurs automobiles, justement, le respect entre voiture et vélo, qui n'est pas toujours évident à instaurer. Hein.
Alors, effectivement, on est parti d'un constat qui était alarmant et dramatique. Plus de 150 tués cyclistes sur les routes de France chaque année. Face à ce constat, il fallait qu'on réagisse parce qu'il faut que la pratique du cyclisme puisse se faire encore en toute sécurité. Si on veut continuer à développer ce sport, c'est un super sport, donc il faut continuer à le développer en toute sécurité. Et c'est vrai que on a imaginé une opération sur le Tour de France pour sensibiliser à la fois les cyclistes et les automobilistes sur le partage de la route. Et ce fameux partage de la route, c'est notamment le respect des distances de sécurité lorsque l'automobiliste double le cycliste. Ouais. Donc respect de 1,50 m hors agglomération et de 1 m en ville.
Ouais. Alors on a vu, on était aux Pays-Bas donc pour le début de ce Tour de France, il y a un vrai respect entre automobilistes et cyclistes avec des voies cyclables partout. C'est pas le cas en France. Là, en France, on essaye de promouvoir la discipline du cyclisme. Malheureusement, il n'y a pas de voies cyclables ou quasiment pas. Dans les grandes villes, c'est terrible. À Paris, on nous dit ouais, là, il faut prendre votre vélo, mais il y a quoi? Il y a 10 km de pistes cyclables. Donc c'est vrai que c'est difficile.
C'est d'autant plus difficile que la cohabitation en plus entre les automobilistes et les cyclistes en France est nettement plus compliquée que dans d'autres pays où il y a le respect du cycliste. Et ce cycliste reste un usager vulnérable. Il faut qu'on le protège. Il faut le seul équipement de sécurité qu'il a, c'est son casque. Donc effectivement, il faut
casque qui est obligatoire désormais.
Non, casque
pas encore
qui
obligatoire.
N'est pas obligatoire. Il est uniquement obligatoire en course. Ouais. Autrement, il est préconisé, mais absolument pas obligatoire.
On n'a plus le droit de téléphoner à vélo, mais on peut se balader encore sans casque.
Mais on peut pédaler sans casque, exactement. Mais non, mais c'est clair que, voilà, avant d'attendre que des choses évoluent, parce que forcément ça va évoluer et dans le bon sens, il fallait qu'on commence à travailler sur le sujet et qu'on affiche ce message du partage de la route.
Ouais. Cyril, qui a été victime d'un accident il y a peu de temps, bon, c'était pas en France, Cyril, hein, mais c'est vrai que le danger est permanent sur les routes quand on est coureur cycliste ou cycliste occasionnel. Hein.
Oui, il est permanent à partir du moment où vous êtes sur la voie publique. Alors c'est vrai que j'ai eu un accident il y a un an et demi, qui aurait pu être d'ailleurs définitif, mais j'en avais déjà eu un en 69 où j'avais été fauché par une voiture de plein fouet. Ce qui d'ailleurs, avec des effets qui sont arrivés beaucoup plus tard, puisque j'étais obligé d'arrêter ma carrière suite à cet accident, et que j'ai abandonné d'ailleurs le Tour 72 suite aux conséquences de cet accident qu'on n'avait pas vu à l'hôpital, puisque en fait on n'avait jamais cherché à savoir si j'avais un problème du genou, puisque j'étais dans le coma. Donc à partir du moment où on est sur la voie publique, nous sommes en danger. On est en danger parce que on est absolument pas protégé. Et puis vous évoquiez le vélo en ville et les pistes cyclables comme on peut les voir là-bas aux Pays-Bas. Alors il y a deux types de pratiques du vélo. Il y a effectivement en ville, lorsqu'on utilise son vélo pour aller à son travail, pour aller éventuellement faire ses courses. Bon, et puis il y a le cyclisme tel qu'on le pratique lorsque l'on est à la campagne. Mmh. Alors, ce sont deux types de pratiques qui sont complètement différentes, et j'imagine difficilement faire des pistes cyclables.
Oui, sur les chemins de campagne, évidemment.
Sur les routes, si vous prenez seulement, allez, on va dire les routes bretonnes, je ne sais pas combien. Ce qu'il faudrait faire, d'abord, parce qu'il faudrait faucher des arbres, parce qu'il faudrait élargir les routes. Mais le principal. Enfin, ce qui me paraît le plus important, parce que je continue à faire du vélo régulièrement, c'est l'agressivité. Je dis bien l'agressivité des chauffeurs.
Exact.
Il y a trois semaines encore, nous étions avec groupe cyclo là du vélo club du Pays de Guerre, et nous étions après une côte. Et il y avait un petit groupe qui était décroché. J'en faisais partie.
Cyril, je suis obligé de te couper quelques instants parce qu'on repart derrière la ligne, hein. On suit évidemment la 9e étape du Tour de France. Thibaut Pinot est au micro de Pierre-Yves Leroux.
C'était dur, mais c'est un bon moment, quoi.
À 5, comme ça, comment vous êtes organisé? Est-ce que, évidemment, il manquait William Bonnet, mais comment vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes bien senti tous ensemble?
Non, c'est bien senti. C'est sûr que voilà, William, c'était notre locomotive, donc on a perdu un gros élément. Après, il y a Sébastien qui était fiévrouillère, donc Chavanel, donc voilà, mais on s'est bien battu. On n'a pas trop de regrets, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a fait ça comme si on devait le faire à fond, donc voilà, c'est important.
Vous avez eu une première semaine difficile, on va pas y revenir, on en a beaucoup parlé. Maintenant, vous arrivez sur des. J'ai envie de dire presque chez vous, vous arrivez sur un terrain que vous connaissez bien et que vous appréciez, c'est la montagne. Vous êtes prêt pour vous relancer?
Ouais, dans la tête je suis prêt. Après voilà, faut avoir les jambes, c'est sûr que. Si la tête suit, le reste va suivre, mais c'est sûr que j'ai eu des petits pépins cette semaine qui m'ont fait que voilà, j'avais du mal à être à 100% et j'espère vraiment y être à partir de la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Réaction de Thibaut Pinot. Derrière la ligne, avec les coureurs de la FDJ donc, qui sont arrivés, qui repartent tranquillement. Ça arrive pas trop vite en haut de la côte, évidemment. Donc
c'est assez
facile de pouvoir retrouver les coureurs et de pouvoir discuter avec eux. Il y a une équipe qui va s'approcher d'ici quelques minutes, c'est l'équipe Europcar.
Très bien, merci
Pierre-Yves, le temps de la formation FDJ, mon cher Fred, à l'arrivée.
Deuxième temps provisoire, alors que seulement 4 équipes en ont terminé. Deuxième temps provisoire à 45 secondes du meilleur chrono pour l'instant détenu par les Italiens de Lampre.
Et dans l'intégral tour cet après-midi, on s'intéresse à la sécurité routière, la sécurité des cyclistes, qu'ils soient coureurs dans les courses, mais là ils sont assez protégés, surtout les pratiquants du vélo. Cyril, tu finis ton anecdote.
Je reprends donc. La voiture double le premier groupe, arrive sur le deuxième qui a une centaine de mètres d'avance. Enfin, ils ne sont que trois. Et là, au moment où ils doublent ces trois coureurs, ils donnent un coup de volant pour les balancer dans le fossé. Et c'était une voiture des services municipaux d'une ville. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de prendre le numéro. Il s'en est fallu, d'un cheveu, qu'on se retrouve avec trois cyclistes au fond du fossé. Dans quel état, je ne sais pas. Mais cela arrive très, très, très souvent.
Alors, il faut peut-être juste rappeler la règle du code de la route, Catel Botrel. Est-ce que que dit le code de la route sur un groupe de cyclistes? Personnellement, je le sais, mais j'aimerais vous l'entendre dire.
Alors là, c'est le code de la route dit exactement que le rouler à deux de front, c'est autorisé.
C'est autorisé.
C'est possible, oui. Mais que lorsque le véhicule qui est derrière les coureurs fait signe aux coureurs qu'ils souhaitent les doubler, les coureurs ont l'obligation de se remettre en file indienne.
Donc un coup de klaxon, pas seulement des gros bourbissements d'accélérateur, voilà. Très nerveux.
Tout à fait,
et presque
un petit
effrayant.
Coup de klaxon, voilà. Laissez-moi la place, je veux passer, mais c'est autorisé de rouler à deux.
Il n'y a pas que les coureurs cyclistes qui sont victimes de ce genre de choses.
Je vais intervenir par rapport à cela, parce qu'il faut savoir comment fonctionne un groupe. Et quand vous avez un groupe d'une quinzaine ou d'une vingtaine de cyclistes qui sont effectivement deux par deux, si vous klaxonnez, on peut se mettre en file indienne, sauf que ça va demander 700 à 800 mètres.
Oui.
Ça se fait pas.
Et c'est là où le chauffeur de la voiture perd patience, s'énerve et va quand même passer. Vous ne pouvez pas avoir un groupe de 20 d'un seul coup qui représente donc 10 lignes et qui va se mettre, si vous voulez, en file indienne sur 20. C'est-à-dire que vous allongez la file à peu près de 15 mètres. Donc 15 mètres, ça veut dire qu'une partie ralentisse. Donc comme elles vont ralentir, la voiture va être obligée de ralentir derrière. Et ça, ils ne le supportent pas. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit dans les textes et ce qui est possible. J'ai bien ce qui est possible, ouais. Sur la route.
Près d'autres équipes en ont terminé.
Oui, l'équipe Europcar qui vient de terminer le contre-la-montre par équipe. Troisième temps provisoire derrière Lamprey et FDJ. Mais surtout, en ce moment, à Vannes, à 28 km d'ici, en haut de la côte de Cadouda, la Plumelec, les premiers favoris sont en train de s'élancer.
Cyril Gauthier est au micro de Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée.
Exactement, Cyril qui reprend ses esprits, évidemment. Effort compliqué, fort difficile. Sur vos terres, pourtant, est-ce que ça compense malgré l'effort?
Ça compense pas grand-chose. Non, on l'a fait bien à fond là. J'ai le cœur qui est monté très haut là, à la dernière bosse. Voilà, on a fait ce qu'on a pu et on a essayé de s'appliquer. Après, on verra. On n'est pas des spécialistes.
C'est toujours un effort difficile, très technique aussi.
Ouais, bien sûr. Voilà, comme je dis, on n'est pas une équipe de spécialistes en chrono, sinon ça se saurait. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a et voilà, on s'est appliqué et voilà.
Avec de la montagne qui s'approche et surtout une journée de repos, ça va faire du bien.
Ouais, ça va faire du bien après 9 jours compliqués, nerveux, pas forcément par le relief, mais voilà, par l'attention des coureurs et les conditions qu'on a pu avoir de la première étape. Donc voilà, maintenant on va essayer d'aborder la deuxième semaine avec un peu plus de fraîcheur. Demain, ça va permettre de récupérer un peu.
Bon repos. Merci beaucoup Cyril Gauthier, aux côtés de Pierre Roland ici en fond de ligne.
Merci Pierre-Yves. On va conclure sur notre débat concernant la sécurité routière et évidemment cette entente qui n'est pas cordiale parfois entre les automobilistes et les cyclistes. Donc Botrel, on rappelle donc votre opération. On rappelle qu'il faut respecter une distance de sécurité lorsqu'on double un cycliste, 1m50.
Et surtout, on demande à tout le monde de ne pas être agressif les uns envers les autres.
Hein. Je crois que c'est surtout effectivement beaucoup de bon sens et accepter cette
simplement des civismes.
Complètement.
Juste une phrase à ceux qui veulent frôler les cyclistes. Songez à l'après-décès d'un cycliste. Il y a toute une vie à faire avec des morts sur la conscience.
Et il n'y a pas que les cyclistes qui sont sujets à l'agressivité des conducteurs automobiles. On se rappelle de Simon Fourcade, le biathlète qui a été poussé en dehors de la route il y a de cela quelques semaines. Et lorsqu'il a voulu venir s'expliquer avec l'automobiliste, celui-ci a sorti une hachette. Donc voilà, le civisme de temps en temps sur les routes de France n'est pas vraiment ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Madame Vautrel pour ce que vous faites, évidemment, pour les coureurs cyclistes. Dans quelques instants, les infos de 16h, on va juste rappeler donc les principaux chronos de cette 9e étape du Tour de France. Fred.
Avec 5 équipes qui en ont terminé avec ces 28 km du contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec. Meilleur temps provisoire, c'est pour l'instant anecdotique, de l'équipe italienne Lampre devant la FDJ et Europcar. 12 équipes se sont déjà élancées, dont les Astana de Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant. On commence à entrer dans le Money Time. Les meilleures équipes sont en train de partir de Vannes. La dernière, ce sera le Team Sky à 16h45.
Et puis, je vous rappelle qu'à Wimbledon, en finale, Djokovic mène 1-7-0 face à Roger Federer. On attaque la deuxième manche. Il est 15h58. On va se retrouver juste après les infos de 16h pour la suite de cette 9e étape du Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.